Bonjour tout le monde, à l'exception de Yuri Vips et de Nelson Piquet, et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 113. Avant de commencer l'épisode, d'introduire Marc-André Fortin, je vais y aller d'un éditorial qui me plaît pas à faire vraiment, là, mais je suis tanné. Et la raison pour laquelle j'ai dit bonjour tout le monde, sauf à Yuri Vips et à Nelson Piquet, bien évidemment, on enregistre en ce 28 juin, mais l'épisode que vous l'écoutez probablement le 30 et au-delà. Disons que d'abord, d'un premier coup, ben, au cours même pas deux semaines, on a eu droit à trois moments assez douloureux à lire dans l'univers de la Formule 1 des médias sociaux. Premièrement, bon, avant la tenue du Grand Prix du Canada, il y a un nobody sur Twitter qui s'est permis de critiquer l'animatrice et pilote de course Naomi Schiff, qui travaille à Sky Sports F1, disant qu'elle n'a pas l'expérience en Formule 1 pour parler justement de ce sport. Dans la biographie du nobody en question, qui est d'ailleurs toujours actif sur Twitter, on retrouve les termes suivants. Brexit, Trump, make America great again. Bref, des sujets aux tendances assez xénophobes. Et pourtant, Schiff, qui travaille, comme j'ai dit, pour Sky Sports F1, est de race noire. Évidemment, le mec s'est fait ramasser par ses propos, dont par Lewis Hamilton, parce qu'évidemment, Naomi Schiff reçoit une pluie d'éloges pour l'apport qu'elle amène dans les analyses lors de Grand Prix de Formule 1. Il y a littéralement une semaine, Red Bull a suspendu son pilote de l'académie, Yuri Vips, car ce dernier a dit le mot en N avec un R dur, alors qu'il jouait à Warzone. Aujourd'hui, Red Bull a décidé de couper les liens avec Vips, qui a eu le privilège de conduire lors de la séance d'essai libre du vendredi matin, la numéro 1, lors du Grand Prix d'Espagne de cette année. Tout ça m'a fait penser à Carl Larson il y a 2 ans exactement, qui lui avait dit la même chose et a été carrément congédié de Chip Ganassi. Et au cours des derniers jours, un extrait d'une émission brésilienne circule sur les réseaux sociaux où on entend Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1, qualifier Lewis Hamilton de mot en N en portugais brésilien, que je ne répéterai pas évidemment. L'extrait date de novembre 2021 et revient sur ce fameux et controversé Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Il a dit, pas une, mais deux fois, ce qui rend la chose plus surprenante. Évidemment, il y a eu une vague de réactions et Lewis Hamilton, encore une fois, sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, a réagi de la meilleure manière en disant qu'il faut changer les trucs archaïques. Et moi, personnellement, je suis tanné. À chaque fois qu'on entend des propos racistes, il y a toujours du monde qui vont essayer de trouver des excuses pour justifier les propos, par exemple, de Vips lorsqu'il joue à Warzone. Il y a tellement de synonymes d'insultes que tu peux utiliser qui ne sont pas offensants, mais il a décidé de choisir le mot en N. En plus de dire à Liam Lawson, porte pas du rose, ça fait gay. En plein mois de la fierté. C'est pas un pro-game move, ça. Et t'as Nelson Piquet qui, bien qu'il est un grand pilote, a eu la réputation d'avoir une grande gueule et d'aller beaucoup trop loin dans ses commentaires. Parlez-en à Nigel Mansell et à Ayrton Senna. Bon, Mansell qui s'est fait dire que c'était une personne pas très bien éduquée et que Piquet a traité sa femme de laidronne. Et jusqu'à 2020, Piquet a assumé que Senna était gay. Et là, le mot en haine, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, oui, je suis bien content de voir la Formule 1, la FIA, Mercedes et quelques écuries ainsi que pilotes, dont Charles Leclerc et Zhou Guanyu, s'insurger des trucs. Mais le problème, c'est qu'il manque d'action. Il y a 2 ans, on était au balbutiement du mouvement We Race as One, où justement, lors des débuts, c'était le capharnaüm total. C'était mal organisé, c'était pas très bien élaboré. Encore aujourd'hui, il n'y a pas d'action concrète. Et c'est ce que je reproche énormément à la Formule 1 et à la Fédération internationale de l'automobile de nous sortir des communiqués pour dire « le racisme, c'est mal voyé ». Mais le point est qu'il manque d'action. Il manque d'action en Formule 1 pour tout propos raciste, sexiste, misogyne, xénophobe, tous des propos offensants qui vont nuire à la réputation de la Formule 1. Alors, oui, je suis bien content que la Formule 1 ait pris, disons, une initiative et qu'elle essaye de le faire. Mais il y a tellement de pommes pourries, si je peux me le permettre, qui font en sorte que, au lieu d'avancer, la Formule 1 recule. Et ça continue malheureusement avec Nelson Piquet, Yuri Vips, et probablement le nobody sur Twitter. Dieu merci, il a enlevé son tweet. Mais le point est que j'ai du mal à croire que We Race as One. On ne l'est pas. Et tant qu'il n'y aura pas d'action concrète, comme, oui, je sais, référence soccer, la Premier League avec leur No Room for Racism, moi, je ne croirais pas à ce mouvement. Surtout que la Formule 1 a des tendances à être hypocrite. Par exemple, aller au Grand Prix d'Arabie Saoudite, annoncer la tenue d'un Grand Prix d'Arabie Saoudite 2 mois après le début du mouvement We Race as One, aller au Qatar. Oui, bon, d'accord, ils ont enlevé le Grand Prix de Russie, mais qui dit que lorsque la guerre sera terminée, ils ne reviendront pas en Russie. J'ai un énorme problème avec ça. Et aujourd'hui, l'histoire de Piquet m'a juste fatigué. Sérieusement, à chaque fois qu'on entend des commentaires, puis ça fait même pas une semaine entre l'histoire de Vips et de Piquet, mais à chaque fois, j'ai l'impression que la Formule 1 recule dans ses mouvements plutôt que d'avancer. Et dire qu'en NASCAR, qui est la série qui a eu le plus d'actes de ségrégation raciale dans son sport, fait un meilleur mouvement que la Formule 1. Au final, j'ai juste un truc à dire à Yuri Vips et à Nelson Piquet.
Un bon français qui mange la map. Tout carré, simple que ça.
Voilà. Fin de l'éditorial. Alors, j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut. Est-ce que tu as cet extrait-là en portugais?
J'aimerais ça, même en estonien aussi.
Mais... Oui, en estonien, ça pourrait être aussi très, très, très facile.
Ouais, exactement, mais écoute, je suis sérieusement tanné, puis sérieusement, la Formule 1 doit faire quelque chose. Là. Bon, enfin,
on va... Mais écoute, c'est 2 ans d'inaction quand tu y penses, tu sais, ouais. Depuis le lancement du mouvement... Moi, j'ai pas vu de changement, tu sais. À part un peu de support envers Lewis quand il fait des sorties, on n'entend pas parler de la Formule 1. Au début du mouvement, on s'en était déjà parlé. C'était un peu ça, la déception de tout le monde. Tu sais, c'est de l'hypocrisie de faire semblant de rentrer dans le mouvement sans vraiment faire de changement. C'est aujourd'hui, 2 ans plus tard, ce que l'on constate. Et c'est très dommage.
Et oui, et on recule plus. J'aurais préféré qu'on fasse du sur place plutôt que de reculer, honnêtement. Mais voir au moins que la Formule 1 essaye, mais à chaque fois, c'est déception après déception.
Exact. On verra. Écoute, j'espère que c'est mauvais pour Liberty Media aussi. C'est ça qui me rentre pas dans la tête. C'est une, c'est une entreprise qui est évolutionnelle, qui veut rentrer dans le mouvement, mais ils sont pas capables de... C'est ça.
Et, en tout cas. Et c'est pas en se fiant seulement sur Lewis Hamilton et Sébastien Vettel que les choses vont avancer. Là. Ça prend un effort collectif. Je sais qu'il y a beaucoup de fans et de créateurs de contenu qui veulent changer les choses aussi, mais les efforts doivent passer par la Formule 1.
La haute direction.
Par la haute direction et par la FIA aussi. Enfin, mais je suis malheureusement pessimiste quant à la Formule 1. Bref. On va passer tout de suite au premier sujet. Nous allons parler de Haas parce que l'écurie, bon, au moins si c'est, on pourrait pas dire un conte de fées, mais c'est beaucoup mieux que 2021, ça on va se le dire.
Oui.
Évidemment, déjà avec le départ de Nikita Mazepin et le retour de Kevin Magnussen. D'ailleurs, qui a fait un très bon début, qui a un très bon début de saison. Cinquième pour K-Mag au Bahreïn, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le meilleur résultat de l'écurie jusqu'à présent. Mais malheureusement, Magnussen a connu deux erreurs d'agressivité en Espagne et à Montréal de la même manière, au même tour. Et contre le même pilote en Lewis Hamilton. Et aussi, on a Mick Schumacher.
Tu vois, celle-là, j'avais oublié.
Ah, ben tu vois, je pense que c'est l'effet post-Grand Prix du Canada.
Ouais, c'est ça.
Et on a Mick Schumacher, dont le meilleur résultat, c'est 11e au Bahreïn, mais qui a eu deux gros accidents en qualification en Arabie Saoudite et une autre en course à Monaco. Et il s'était retrouvé dans les points à Miami, mais malheureusement fait un contact avec Sébastien Vettel, donc a dû abandonner. Et en Espagne, il était dans les points. Une stratégie assez pauvre. Et à Montréal, ben, c'est un problème de moteur. Donc, cette saison, c'est 7 top 10 en qualification, mais qui s'est résulté finalement en trois, il s'est retrouvé trois fois dans les points et je pense qu'on peut inclure aussi le sprint à Imola pour le Magnussen. Ouais. Donc, cette saison, est-ce qu'il y a espoir pour la suite de la saison?
Est-ce qu'on doit avoir de l'espoir pour cette écurie? J'aimerais ça te dire que oui, mais c'est toujours une écurie qui réussit à se mettre les pieds dans les plats. On dirait qu'ils sont jamais capables de concrétiser des occasions importantes. Tu sais, on en parlait, ou j'en parlais au Grand Prix avec des personnes qui étaient près de moi, qui étaient voisins, puis c'est beau. Partie 5, 6e, super. Mais le rythme de course n'aurait pas été là malgré le problème de moteur, malgré tout ça. Ils ont eu vraiment des très belles qualifications sous la pluie. C'était extraordinaire. Vraiment, Magnussen, chapeau. Là. Mm-hmm. C'était beau à voir. Mais c'est ça. Ça manque d'opportunisme. Les chances sont là, mais ils ne réussissent pas à les concrétiser. Je trouve ça plate. Parce que, écoute, ils nous ont tous surpris avec cette voiture. Ils ont fait un an de développement et ça l'a payé. Honnêtement, on riait d'eux l'an dernier.
Ouais.
Cette année, ça l'a payé. Ils ont une belle voiture malgré tout. Ils réussissent à être dans les points de temps en temps. Ils font un bon travail. Ce n'est plus la risée du paddock. En fait, il n'y a plus de risée du paddock tant que ça. Il y a Williams là, qui traîne un peu de la patte.
Ouais.
Mais tu sais, sont en constant changement. Il y a un nouveau directeur sportif. Tout ça va rentrer dans l'ordre, je crois, dans quelques années. Donc, pour revenir à Haas, j'ai pas l'impression que ça va être une équipe que l'on doit prendre au sérieux.
Mm-hmm.
Mais malgré tout, à chaque Grand Prix, la voiture semble rapide. Ils ont eu des problèmes aussi avec Ferrari. T'sais, au début de l'année, on disait, oh mon Dieu, quel beau moteur, ce moteur Ferrari. Et finalement, il y a des problèmes, ce moteur. Autant sur la fiabilité que la vitesse de pointe que l'on... Ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mm-hmm. La Ferrari était la plus rapide dans les trois premiers Grands Prix et tout d'un coup, pouf, Red Bull sort de nulle part. C'est ça. Fait que il y a quelque chose dans cette voiture qui est intéressante, mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont être capables d'optimiser tout ce que la voiture peut leur offrir. Puis, Puis en terminant aussi, on le sait, ils ont des pilotes qui ont le sang chaud quand même. Hein. Kevin Magnussen peut sortir la plus belle performance de l'histoire comme il peut être la risée du paddock. Et Kevin Mick Schumacher, ben, un pilote qui est non constant. Il y a certains grands prix qui vont sortir une belle course, puis d'autres, comme on voit, accident après accident. Donc, on verra. Moi, je leur laisse quand même la chance du coureur cette année.
Oui, et puis aussi, il faut préciser que Haas est supposé avoir une évolution de leur châssis au Grand Prix de Hongrie.
C'est vrai.
Déjà, à la base, c'était supposé être pour le Grand Prix de France, mais ils ont décidé de repousser ça d'un Grand Prix. Mais force est d'admettre que quand même si la voiture est parfois difficile, elle est capable de se battre pour des positions, ce qui n'était pas le cas évidemment l'année dernière, sachant que l'écurie a sacrifié carrément 2021 pour se concentrer sur 2022. Là, actuellement, est-ce que tu crois que c'est un effort qui va être bon à court terme, mais est-ce qu'à moyen terme, ça va être quelque chose qui va rapporter à Haas?
Oui, moi je pense que oui. S'ils réussissent leur évolution, pourquoi pas? Ils font pas ça pour rien. Ils ont travaillé probablement sur de la soufflerie. Ils ont des données importantes. La voiture a du potentiel. Ça, on le sait depuis le début de l'année. Ils nous ont surpris. Ils ont surpris tout le monde. Dès les premiers essais, ils nous ont surpris. Donc, moi, j'ai pas peur pour cette écurie. L'évolution va venir. Maintenant, si tu te trompes, ben, tant pis pour toi. Tu sais, ça va être une erreur parmi tant d'autres, mais je n'ai pas l'impression que ça peut être pire. Moi, je pense que ça veut juste aller en amélioration, puis on verra ce que la voiture peut offrir à la fin.
Mm-hmm. Parce que
toi, de ton côté, tu vois ça comment?
Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée au moins parce que je trouve que le package de base, il est bon. Je pense que la seule course de la saison où ça a vraiment foiré, c'est en Australie où normalement l'équipe, pour reprendre un peu des fameuses paroles de Gunther Steiner dans la saison 1 ou 2. Un de Drive to Survive. En Australie, normalement, ils sont vraiment des légendes sur ce circuit. Ils ont super bien performé, mais souvent, ce ont été des performances où ils ont été des bunch of wankers. Donc.
Ou une petite erreur au puits. Hein?
Exactement.
Deux petites erreurs au puits.
Deux petites erreurs au puits, même trois si on compte 2019 aussi. Mais en général, Australie, ça a été leur circuit de prédilection. Ouais. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Ils ont été vraiment largués. Donc, sinon, dans les autres courses, c'était correct. Kevin Magnussen était capable d'extraire le meilleur. Mais malheureusement, je pense qu'il a un peu trop utilisé son agressivité. Et puis, je reviens à Espagne et Montréal. C'était des courses où Haas pouvait espérer marquer des points minimes, certes, mais c'était des points probablement importants qui lui auraient peut-être permis de se retrouver huitième devant Aston Martin.
C'est sûr.
Donc, moi, je pense que l'évolution espérée au Grand Prix de Hongrie, pour moi, si elle devait fonctionner, ben là, l'écurie serait en business pour la suite et elle pourrait surprendre. Et je crois que ça pourrait donner un gain de confiance énorme pour Mick Schumacher qui risque d'être celui dont les regards vont se tourner vers lui. Donc, je crois que Haas a intérêt à ce que l'évolution du Grand Prix de Hongrie, qui est la majeure, parce que toutes les écuries ont déjà eu la leur en Espagne. Il y en a qui vont l'avoir déjà pour le Grand Prix de Grande-Bretagne en fin de semaine. Mais Haas va attendre en Hongrie. Donc, ils sont mieux de ne pas rater celui-là. Quitte même à ce que ce soit pas fonctionnel dès le départ, mais que tranquillement, pas vite, ça gagne en performance.
Mm-hmm. Ouais, puis ils vont devoir penser aussi à plus tard. tu sais, déjà là, c'est bon. Ils pensent à cette année. C'est déjà une grande amélioration sur l'an dernier. Mais ils vont devoir penser au futur. Tu sais, est-ce que Kevin Magnussen est le pilote du futur pour Haas? La réponse est non.
Non.
Est-ce que Mick Schumacher est le pilote du futur pour Haas? J'aurais le goût de dire non. Mais ils verront ce qu'ils vont faire avec. C'est quand même de l'argent allemand qui est non négociable également. Donc, écoute. Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont aller rechercher un pilote payant après Magnussen? Parce que là, Magnussen, c'était le bouche-trou après la perte de Mazepin. Est-ce qu'ils vont aller essayer d'aller. Là, j'ai essayé de faire des petites recherches. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé le pilote payant en Formule 2 présentement. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Hein.
Mm-hmm. Mais le truc, c'est que Magnussen, lui, a un contrat de 3 ans. Donc, lui, il est là pour 3 saisons. Donc, il est là jusqu'en 2024, à peu près.
Tu penses qu'il va rester jusqu'en 2024?
Je pense qu'il devrait pas. Je pense qu'il pourrait rester parce que ouais. Je crois qu'il croit au projet de Haas.
Ça, c'est sûr.
Je crois qu'il y croit. Maintenant, c'est savoir est-ce que les actes vont suivre après les paroles.
Ouais.
Et puis, pour ce qui est de Mick Schumacher, évidemment, oui, il y a l'argent allemand, mais c'est aussi un pilote qui appartient à Ferrari. Donc, évidemment, je crois que quelle sera l'option de Ferrari? Que va faire Ferrari avec Schumacher? Est-ce qu'ils vont le garder avec Haas jusqu'à ce qu'il soit assez mature pour aller soit avec Ferrari ou bien avec une écurie affiliée, c'est-à-dire par exemple Alfa Romeo? Mais je crois que Alfa Romeo, le problème, c'est Théo Pourchaire. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que Ferrari va dire ben garder Mick Schumacher là jusqu'à ce qu'il soit mature s'il croit vraiment au potentiel de l'Allemand.
Ben c'est aussi ça. L'autre côté, c'est que l'an dernier dans les rumeurs de la Formule 1, il y avait des petites tensions également entre Alfa Romeo et Ferrari. Même on parlait que ça pouvait remettre en question la présence de Théo Pourchaire chez Ferrari. Jusqu'à là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y en est. Est-ce qu'on s'est reparlé de manière plus sérieuse?
Mm-hmm.
Je ne sais pas. Mais effectivement, écoute, c'est un pilote Ferrari. Il faut prendre ça en contexte. Mais j'ai de la misère à voir le potentiel de Mick Schumacher personnellement.
Mm-hmm.
J'aime bien le petit gars, j'aime bien le pilote, mais il y a quelque chose qui m'accroche dans. On dirait que je vois pas le potentiel, donc j'ai comme pas l'impression que je le vois pas dans 3-4 ans chez Ferrari, tu sais.
Mm-hmm. Mais justement, continuons de parler de Mick, cette saison, avec ce qu'on a vu, est-ce que tu crois que d'ici, bon, là on est dans. On est, disons, dans le deuxième tiers de la saison. Est-ce que tu crois que... évidemment, on s'attend à ce que Mick marque des points parce qu'il est quand même passé proche au Bahreïn, à Miami, en Espagne peut-être, mais à Montréal, il aurait pu marquer des points si ce n'était du problème moteur. Mais est-ce que tu crois que à partir de Grande-Bretagne, on va voir vraiment un Mick Schumacher plus... amélioré que ce qu'on a vu dans cette première partie de la saison qui vient de se terminer à Montréal?
Oui, c'est plus d'expérience, c'est sûr. C'est plus le temps avance, plus il gagne en expérience, plus il gagne en confiance. Tu sais, les erreurs cette année, c'est pas tant de sa faute non plus, tu sais. Fait que c'est pas si grave. Mais c'est certain que, écoute, moi, j'y vois du bon pour Mix en fin de saison, mm-hmm. surtout si l'amélioration fonctionne.
Ouais, parce que aussi, Mick Schumacher, dans les catégories juniors, dans sa deuxième saison, je pense que je l'ai mentionné à 2 ou 3 reprises dans le podcast cette année, que lors de la deuxième saison, Mick Schumacher devient beaucoup plus constant et beaucoup plus performant dans la deuxième moitié de la saison. Là, on est en Formule 1, dans un contexte où les voitures ont changé. Donc, comme pas mal tout le monde, ils découvrent une nouvelle génération de voitures. Est-ce que là les, moi, je me dis, les choses changent, évidemment, en Formule 1. Et tu as la pression de performer le plus vite possible parce qu'on veut les résultats les plus probants, les plus vite possible. Jusqu'à quel point Haas va être patient envers Mick pour qu'il livre les résultats? J'espère qu'on va lui donner un peu plus de temps, mais en même temps, Mick ne s'est pas aidé évidemment avec ses deux gros accidents en Arabie Saoudite et à Monaco et l'accrochage avec Mick Schumacher, avec Sébastien Vettel à Miami. Donc, si Mick est capable d'être plus constant et commettre beaucoup moins d'erreurs, comme si il conduisait pour préserver son volant, bon, quoi que c'est encore le cas, mais moi, je pense que Mick pourrait... Je vois bien Mick marquer des points un peu plus tard dans la saison. Pas maintenant, là, entre Silverstone et Hongrie. Je ne suis pas encore convaincu, mais je crois qu'un peu plus tard dans la saison, peut-être qu'on verra Mick enfin se retrouver dans le top 10.
Est-ce que Belgique pourrait être un bon moment? Selon moi, je pense que oui. Tu sais, nous. Si le moteur réussit à tenir le coup, peut-être. Puis je vois une opportunité en Belgique.
Oui, exactement. Puis tu le disais aussi, le moteur Ferrari, qui est en partie responsable des malheurs de Haas cette saison aussi. Ouais.
Autant ils ont été le bonheur en début de saison. Tu sais, c'est super drôle. Je pense que personne ne s'attendait à ça, à ce qu'il y ait un virage complet. Puis de l'autre côté, tu as une Red Bull qui a réponse à tout. Tu sais, je pense que c'est Mark Webber que je lisais tantôt, mm-hmm. qui disait que selon lui, Red Bull devrait dominer jusqu'à la fin de l'année et Max pourrait, selon lui, être champion à part trois courses avant Abu Dhabi. Et il a raison. Quand tu y penses, Red Bull a réponse à tout, sur toutes les sortes de circuits ils peuvent gagner, alors que Ferrari, à cause de leur moteur, ou du moins... de la construction, c'est un peu la même chose. Mm-hmm. Ils n'ont pas réponse à tout. C'est une voiture qui est très inconstante. Donc, c'est certain que inconstance du côté de l'écurie et inconstance du côté du pilote, quand tu mets ça ensemble, ça donne ce que ça donne. Mais oui, j'ai confiance que Mick réussisse à faire des points avant la fin de la saison.
Oui, je pense aussi. Et est-ce que moi, et concernant Kevin Magnussen, mm-hmm. est-ce que tu crois que on va voir le Kevin du début de saison, bien celui qui... parce que Kevin a offert de très bonnes performances en qualification, surtout ça. En course aussi, il a été bon, surtout au Grand Prix de Bahreïn. Ouais. Mais le truc, je pense, le point fort de Haas cette saison, ça a été les qualifications. En course, le rythme a été un peu plus absent. Et je crois qu'un pilote comme Kevin Magnussen a peut-être le potentiel de permettre à l'écurie de, bon, essayer de trouver le juste milieu entre un rythme de qualification excellent et un bon, ouais. et un décent. Je dis bien décent, parce que présentement, le rythme de course de Haas, c'est pas fameux, quoique c'est mieux que l'année dernière, ça, on s'entend déjà. Je pense qu'il n'y a pas photo, mais il manque encore beaucoup de rythme de course chez Haas, et je crois que la solution pourrait passer par un peu plus d'apport de la part de Kevin Magnussen. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis d'accord avec toi. Si Kevin Magnussen réussit à tenir une voiture, parce qu'on le sait, Kevin Magnussen est un bon pilote, mais un pilote avec le sang chaud qui peut dérailler à tout moment. S'il reste constant, qu'il ne pogne pas de pénalité inutile, qui ne met pas ses adversaires dans le mur, qui n'accroche pas ses adversaires, cette voiture peut devenir compétitive pour la position 5, 6, 7. C'est des belles positions pour le classement des constructeurs à la fin de la saison. Quand tu ramasses 3 points par Grand Prix, c'est merveilleux.
Mm-hmm.
Quand tu en ramasses 3 aux 3 Grands Prix, ben tant mieux, ce sera ça.
Mm-hmm.
Mais cette voiture peut se rendre là parce qu'elle nous l'a montré. En qualification, c'est une bonne voiture. En course, Trois petits points. Mais il faut vraiment qu'ils réussissent à trouver un schéma qui va leur permettre d'être rapides en qualification et de concrétiser en course. Mais encore là, je parle de ça. Qu'est-ce qui se passe avec Ferrari? Super bon rythme de course, de qualification. Charles Leclerc, c'est dans son dernier tour, toujours le plus rapide. Et on arrive en course. Qui gagne les courses? Pérez, Verstappen.
Oui, exactement.
On y voit une course. On voit vraiment deux choses qui sont pareilles. Est-ce que le moteur a un problème en rythme de course? Parce que ou As se sont trop fiés sur Ferrari. Parce que ça, on en a déjà entendu parler. Les bureaux sont proches, les usines sont proches.
Ouais.
Ça se peut qu'il y ait eu des discussions, tu sais. Puis ça paraît dans la voiture, on dirait.
Parce qu'il y a Ed Straw dans The Race qui, justement, faisait un genre de calcul. Il disait que As, même avec une estimation conservatrice, As aurait dû avoir 15 points de plus, ce qui voudrait dire qu'il serait septième devant AlphaTauri, qui
est super important. Là.
Qui est super important, et AlphaTauri qui est une déception cette saison. Donc,
complètement.
Donc, As a le potentiel de faire, de bien faire les trucs, mais je trouve que Kevin Magnussen, non seulement en Espagne, mais à Montréal, bon, j'exclus Monaco parce que c'était dû à un problème, je pense qu'il y a eu un problème avec la voiture et c'est arrivé genre quelques secondes après le gros accident de Mick, mais Magnussen aurait pu apporter de bons points à Haas, même avec un rythme de course un peu plus moyen. Donc, ça aussi, il va falloir que les pilotes mettent un peu de l'eau dans leur vin pour justement essayer d'être plus doux, surtout au premier tour, parce que, je l'ai dit, c'était un copier-coller de ce qu'on a vu à Montréal et à Barcelone pour Magnussen. Schumacher a été très bon dans le premier tour, justement, à Barcelone. Malheureusement, la stratégie n'était pas bonne. Donc, moi, je pense que quand je disais que ça doit passer par Magnussen, c'est parce qu'il a l'expérience. Il a travaillé avec Haas pendant 4 saisons avant de revenir. Donc, moi, je m'attends un peu plus de la part de Magnussen. Le conte de fées et la lune de miel semble être terminé. Maintenant, il est temps de continuer à travailler pour permettre à cette lune de miel de renaître. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter un dernier point avant qu'on passe à notre prochain sujet, Marc-André.
Non, je pense que ça faisait le tour.
Oui, excellent. Donc là, on va passer à notre deuxième sujet. Celui-là qui est un peu plus intéressant, qui nous touche un peu moins, à nous personnellement, mais qui pourrait avoir un impact dans le futur. Donc, on va parler maintenant du futur de la diffusion de la Formule 1 et est-ce qu'elle doit passer par le streaming. Parce que je vous mets dans le contexte. La semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours à peu près, Apple TV a annoncé qu'elle allait diffuser tous ses matchs de la Major League Soccer sur leur plateforme avec un contrat de 250 millions de dollars US pour 10 ans. Donc, ça veut dire que Marc-André... Et c'était justement une référence soccer nécessaire parce que, évidemment...
Oui.
nous, on va regarder le CF Montréal sur Apple TV. Yeah. Mais c'est la première ligue majeure en Amérique du Nord à être diffusée entièrement en ligne dès 2023. Et évidemment, pour citer en fait un certain Kylian Mbappé...
Le football, il a changé.
Donc, oui, le football, il a changé, mais l'univers du sport a changé, évidemment. Pourquoi je fais référence à Apple TV et revenez ça à la Formule 1 parce que, bon, au cours des derniers jours, selon Sports Business Journal avec Adam Stern et John Owen, je mettrai le lien sur notre site, ESPN garderait les droits de diffusion de la F1 aux États-Unis jusqu'en 2025. évidemment, on parle d'un nouveau contrat de 70 millions de dollars par année. Mais sauf que ESPN, qui est actuellement les détenteurs, payait déjà 5 millions par année entre 2019 et cette année. Donc, c'est une hausse d'à peu près quoi, 15. Donc, c'est 15 fois le prix actuel. Bon, 14 à 15 fois le prix. Non, 13, pardon, mes maths. Donc, et on dit que dès 2023, il y aura un petit nombre de courses qui vont être diffusées exclusivement sur ESPN Plus, qui est la plateforme numérique d'ESPN. Et en plus, il y avait 4 intéressés aux droits de diffusion de la Formule 1 pour 2023, 2024, 2025. Évidemment, il y a ESPN par le biais de Disney. Il y a NBC Universal / Comcast qui sont les prédécesseurs d'ESPN de 2013 à 2017, mais qui sont aussi propriétaires de Sky en Grande-Bretagne, donc ce qui aurait facilité un peu la tâche. Mais attention, il y avait Amazon, puisque AWS est commanditaire de la F1 et du Grand Prix du Canada de cette année, et un certain Netflix avec Drive to Survive. Donc, Netflix était intéressé à obtenir les droits de diffusion de la Formule 1. Amazon, selon Sports Business Journal, Amazon aurait payé 100 millions de dollars pour obtenir les droits, plus le choix de sous-licencer les épreuves sur une chaîne à une chaîne sur le câble. Donc, ça veut dire que si Amazon obtenait les droits de diffusion, il pourrait permettre, par exemple, que toutes les courses, les 3 courses aux États-Unis qu'il y aura en 2023, ben, ça va être soit sur CBS, ABC ou n'importe quel canal qui va diffuser la Formule 1 sur le câble. Netflix aussi a soumis une offre, mais c'était beaucoup moindre que les 70 millions offerts par ESPN. Et le truc aussi, c'est que la F1 ne semble pas prête à passer entièrement au numérique, au streaming en ligne, bien qu'il y ait déjà F1 TV Pro qui est disponible ici au Canada et aussi aux États-Unis ainsi que dans plusieurs autres pays, sauf la Grande-Bretagne à cause du deal avec Sky. Alors Marc-André, j'ai envie de te poser la question. Mm-hmm. Est-ce que dans un futur proche ou dans un futur éloigné, la Formule 1 devra passer par... Est-ce que l'avenir de la diffusion de la Formule 1 doit passer par le streaming en ligne, comme ce que va faire MLS avec Apple TV?
Je pense que non. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une application extraordinaire en F1 TV. Mm-hmm. Les vrais passionnés peuvent passer par là, puis les gens qui ont un intérêt moyen peuvent encore avoir accès au réseau de télé, ce qui est parfait. Ça donne vraiment le meilleur des deux mondes. Si tu es vraiment un passionné, moi je l'ai F1 TV, mm-hmm. Ça me permet d'avoir des courses de 2008, de 2009, j'adore ça, c'est vraiment le fun. Un dimanche sans Grand Prix, je me mets une petite course, une vieille course, puis c'est parfait. Je la regarde, les jours de Grand Prix, je l'écoute à RDS, parce que j'aime bien ce qu'on fait ici quand même, à défaut de tout ce qui peut se dire.
Local.
Et puis, j'ai toujours mon téléphone avec F1 TV qui me permet de suivre Max, qui me permet d'entendre ce que son ingénieur lui dit, ce que lui répond. Donc, tu sais, ça donne une panoplie, une expérience complète. Maintenant, si je vais passer un peu vers ce que la MLS a décidé de faire, juste pour venir prendre tous les éléments en main. Mm-hmm. La MLS a décidé d'aller avec Apple TV, qui compte 20 millions d'abonnés. Mm-hmm. 20 millions d'abonnés. C'est très peu, là.
Ouais.
Oui, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est très peu. Ce qui est encourageant, c'est que Apple TV n'est pas dans la course pour la Formule 1, une chance.
Dieu merci.
Ce sont Netflix qui a... j'avais le chiffre tantôt, un total de, je crois que c'est 210 millions d'abonnés. Déjà là, t'as quelque chose, t'es pas mal tout le monde à Netflix aujourd'hui ou presque. Mm-hmm. Par un ami qui l'a, par la sœur, par le frère, tu sais. Tout le monde a accès à Netflix aujourd'hui ou presque. Puis c'est ça qui est encourageant. Si jamais Netflix décide du jour au lendemain, OK, nous, on veut les droits, ben le partisan moyen par la bande pourrait l'obtenir. Ce que la MLS a décidé de prendre une décision qui me semble complètement dégénérée parce que ils n'ont pas la base de fans suffisante pour rejeter la télévision traditionnelle, alors que la Formule 1, ils l'ont. Tu sais, en France, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, ça fonctionne. Il y avait près de, c'est quoi les chiffres? C'est 340 000 personnes au total, je crois, au Canada, en fin de semaine. Tu sais, la base de partisans est présente et ça fonctionnerait. Mais je comprends pourquoi la Formule 1 n'est pas prête à faire le saut vers le numérique parce que la télé traditionnelle fonctionne encore.
Mm-hmm.
C'est ça le constat. Ouais. Tu sais, à TVA Sport, il y a encore 100 000 personnes qui écoutaient le match du CF Montréal contre Charlotte. 100 000.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il va avoir ça avec Apple TV? Je pense pas.
Et puis aussi...
C'est ça qui doit être pris en compte.
Ouais.
La télé traditionnelle fonctionne encore parce que c'est les partisans moyens qui ont accès à ce sport magnifique en la Formule 1. Et ça ne doit pas changer jusqu'à temps que tu me dises, OK, la télé traditionnelle, là, ça fonctionne vraiment plus. On doit vraiment faire le changement. Parfait. En ce moment, la télé traditionnelle est encore un bon moyen de transmission et ça doit rester jusqu'à temps justement qu'il y ait des failles.
Exact.
Mais c'est sûr que je comprends pourquoi les ligues veulent aller au-delà puis être à l'avance parce qu'ils passent pour des magiciens. Mais je peux te le dire, la MLS va se planter puis la Formule 1 ne doit pas suivre ça.
Parce qu'en même temps, je pense qu'on en avait parlé. Ben, j'ai oublié des bouts, mais je sais que j'en avais parlé avec Jean-Sébastien en privé. Évidemment, Netflix, on n'est pas surpris parce qu'évidemment, l'effet Drive to Survive a fonctionné. Mais mm-hmm. Il y en a beaucoup qui disent que pour ESPN, c'est la meilleure. C'est le meilleur choix possible parce que tu gardes la base que tu as créée justement entre 2018 et 2022 parce que les codes d'écoute de la Formule 1 sur ESPN, ABC ne cessent d'augmenter année après année. Et en plus de ça, les courses sont diffusées sans pause publicitaire que la chaîne se soit fait ramasser pour avoir mis des pauses publicitaires alors que la course utilise le feed de Sky Sports F1. Donc, et Sky Sports F1 n'a pas de pause publicitaire à la base. Donc, évidemment, dès l'année prochaine, il va y avoir un petit nombre, je ne sais pas, on ne sait pas combien, de courses qui vont être diffusées exclusivement sur ESPN+. Donc, c'est-à-dire, les gens vont devoir payer, je pense, un supplément pour obtenir la plateforme numérique. Là, avec Netflix, oui, d'accord, ce serait quelque chose, parce que Netflix n'a pas de sport. Dans leur chaîne, alors qu'Amazon va avoir aux États-Unis les matchs du jeudi soir. Je crois qu'en Angleterre, ils ont quelques matchs de la Premier League, quelques tournois de tennis, entre autres. Et en France, ils ont la Ligue. Ils ont des matchs de la Ligue 1. Donc, Amazon a déjà une base, mais Netflix, ce serait la première fois. Donc, il y a aussi.
Mais sais-tu, la plateforme Netflix, comment ça. Il y aurait quoi un Netflix en direct, je sais pas.
Ben ouais, ce serait quelque chose. Et puis, je comprends la Formule 1 d'attendre un peu avant de dire, OK, on va avoir une plateforme complètement différente qui va diffuser l'entièreté de la saison de Formule 1 sur leur plateforme. Mais ça voudrait dire aussi que peut-être F1 TV, soit il y aurait un merge ou bien ne serait plus disponible dans le pays étant donné qu'on ne veut pas rivaliser entre, par exemple, Netflix et F1 TV. Ce serait choisir entre une plateforme et l'autre. Donc, je comprends un peu aussi le fait que la Formule 1 décide de rester avec le choix le plus sûr, même si ESPN va donner 30 millions de dollars de moins qu'Amazon, mais au moins ils ont un choix parce qu'au moins ils sont sûrs qu'ils vont pouvoir avoir de bonnes codes d'écoute. si évidemment ça continue à augmenter comme on le voit actuellement.
Puis je pense que la Formule 1 a compris qu'ils sont encore en développement aux États-Unis. T'sais, c'est loin d'être fini. Las Vegas, ça va t'en amener des fans de plus que tu pensais pas. Puis il faut que ça passe à la télé traditionnelle. Parce que l'Américain, par exemple, au Texas, bon, il y a Austin, parfait. Là, il va voir Las Vegas. Là, il y a Miami. Puis en plus, là, on vient d'apprendre que la Formule 1 a payé pour aider Las Vegas à obtenir un Grand Prix. Je pense que c'est 240 millions, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Pour placer le terrain et pour tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va être un succès monstre. Les célébrités vont être là. Ils vont faire des stories Instagram. Ils vont faire des publications sur Twitter, sur Facebook. Ça va fonctionner. Mais ça, il faut que ce soit sur la télé traditionnelle. T'sais. Puis les codes d'écoute sont en hausse. Ils ont compris que premièrement, il faut absolument que le développement se fait lorsque tout le monde peut avoir accès à l'événement.
Ouais.
Je comprends, il va y avoir quelques cours sur ESPN+, ce qui est dommage parce que sur RDS, toutes les cours sont disponibles sur RDS en direct puis sur RDS. Maintenant, les contrats sont-ils différents? Ça, c'est entre la Formule 1 et le télédiffuseur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais écoute, non, moi, je suis encouragé. J'aime que la Formule 1 ait mis son pied à terre puis dire non, jusqu'en 2025, on a confiance en la télé traditionnelle. Mmh. On verra après. On verra. Peut-être que Netflix va avoir prouvé qu'ils sont capables. Maintenant, aussi, de ce côté-là, est-ce que Netflix va avoir leur propre caméraman? Comment ça va fonctionner? Ils vont acheter les droits de diffusion? Comment ça va fonctionner? Ils vont acheter les droits de diffusion, j'imagine?
Oui, ils vont acheter les droits de diffusion, mais comment ils vont s'arranger? Est-ce qu'ils vont faire un deal avec pour inclure F1 TV Pro? Comme ça va pas faire de cannibalisme.
Je l'espère, parce
de rivalité.
Il faut absolument que F1 TV ça reste. Ça a été vraiment une évolution extraordinaire. Même la première année, j'étais jaloux parce qu'au Canada, ça n'était pas partout. T'sais. Ça avait créé cet engouement de dire, regarde, attendez un an les Canadiens, puis après ça, vous allez l'avoir, mais vous allez baver, là. Puis on bavé pendant un an. Là, on l'a, puis on est super contents, tu sais. Puis une chance qu'on l'a eu pour la pandémie, parce que moi, j'ai écouté des courses, des vieilles courses, j'en ai écouté. Là. Puis c'est ça, la magie de la Formule 1, c'est qu'ils trouvent toujours, je crois, la manière de t'intéresser, même si t'es pas un grand fan. Tu sais, dernièrement, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, tu vois, j'ai écouté le Grand Prix du Canada. L'an prochain, j'ai le goût d'y aller avec toi. Tant mieux. Tant mieux.
Nice.
C'est ça qu'il faut. Puis ça, jamais il aurait payé 22$ par mois pour avoir accès à la Formule 1, tout comme la MLS doit être en train de faire. On parle de 22$ pour la MLS par mois. C'est ridicule. Tu sais, t'as ton abonnement à Apple TV plus le forfait MLS. J'ai demandé à tout mon entourage, puis désolé pour les gens qui se foutent du soccer, là, j'ai demandé à tout mon entourage qui écoute un peu CF Montréal, puis la MLS, personne ne va payer. Même moi, honnêtement, je sais même pas si je vais le faire. T'sais. Fait que, tu vois, il y a quelque chose là. Mais en même temps, Netflix, tout le monde a Netflix, ou presque, regarde. Ça, déjà là, la Formule 1 est, je crois, dans une position plus sûre avec une compagnie comme Netflix.
Ouais, exactement. Si elle devait passer évidemment vers le streaming, mais justement, tu parlais de RDS et RDS et TSN ont les droits de diffusion de la Formule 1 jusqu'en 2024. Et là, je regarde, on parle de plateforme numérique. Il y a DAZN qui a perdu les droits de la Premier League, qui était leur, avec la NFL et la Ligue des Champions, leur plus grosse ligue. Là, ils l'ont perdu aux dépens de Football TV dès le mois d'août. Moi, est-ce que je me dis, est-ce que DAZN serait intéressé à être le diffuseur officiel de la Formule 1, d'après toi? Est-ce que tu crois que DAZN serait un candidat sérieux ou avec, par exemple, Bell Media, Québécois, ou en anglais avec toujours Bell Media, mais aussi Rogers dans le cadre de Sportsnet? Est-ce que tu crois que ce serait un candidat potentiel pour les droits de diffusion en 2024?
Ici, tu parles?
Oui, ici au Canada. Ou,
ici au Canada, peut-être. Écoute, ils ont perdu des plumes. Mais en même temps, tu sais, est-ce que la Formule 1 va vouloir s'embarquer avec une compagnie qui perd des plumes? Tu sais, parce que la première ligue, c'était une... la Ligue des champions, c'était un gros morceau, tu sais.
Mm-hmm.
C'était un gros morceau. Est-ce qu'ils sont sur une pente descendante? Moi, je m'embarquerais pas avec ça, je pense, parce que tu t'embarquerais avec une compagnie que tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Je sais pas, j'ai de la misère avec DAZN, ouais. Parce qu'ils ont perdu la Ligue des champions. C'est triste, mais c'est gros. Ils ont encore la NFL qui fonctionne super bien. Avec leur match en continu, là, leur... j'oublie le nom. Red Zone, c'est super cool. Ça a vraiment une panoplie de... T'sais, ton dimanche, il est très le fun. Fait que, est-ce qu'ils seraient capables de créer quelque chose avec la Formule 1? Je sais pas. J'ai de la misère à croire que DAZN pourrait être dans le coup, mais quand, si c'est le cas... J'ai un ami qui l'a.
Au moins. Donc, vous pourrez partager un compte de zone pour 2024 si la F1 devait aller là-bas, ici au Canada. Et toujours sur le... On va changer un peu de... On va passer du streaming au câble, en fait. Bon, pour la première fois de son histoire, Noovo a diffusé en simultané avec RDS le Grand Prix du Canada. Étant donné que maintenant Bell a maintenant racheté le groupe de course Octane, donc c'est permis de faire la promotion du Grand Prix du Canada. Mais je me dis, est-ce que RDS devrait faire comme ce qu'ils avaient fait avec Radio-Canada entre 96 et 2005? C'est-à-dire, parce que dans le temps, ben, RDS diffusait en direct toutes les courses en sol européen et Radio-Canada diffusait les courses nord-américaines. Donc, le Grand Prix du Canada se retrouvait sur Radio-Canada, tout comme, par exemple, le Grand Prix des États-Unis quand c'était là, le Grand Prix du Brésil aussi, si je ne me trompe pas. Mais là, avec 6 courses, par exemple, en 2023, qui vont être présentées dans nos horaires nord-américains, c'est-à-dire Miami, Canada, Las Vegas, Austin, Brésil et Mexico City. Bon, j'enlèverais peut-être même Brésil, mais est-ce que tu crois que RDS devrait, ou bien Noovo devrait diffuser les courses de Formule 1 en direct pour ces courses-là? Est-ce que tu crois qu'un partenariat pourrait être possible entre RDS et Noovo dans ce cas-là, comme ils l'ont fait avec le Grand Prix du Canada?
Ben, ils l'ont fait une fois, pourquoi pas le refaire, tu sais? Je pense que Noovo est une chaîne plus accessible. Est-ce que Noovo est gratuit pour tous?
Je pense.
Je sais plus, hein.
Ouais, je pense que
VTL était gratuit. VTL était gratuit pour tous.
C'est une chaîne généraliste. Fait,
c'est ça. C'est une chaîne. Donc, t'as rien à perdre. Tu sais, vraiment, honnêtement. Puis le dimanche, à Noovo, y a rien. c'est triste, là, mais y a rien. Y a des petits films de filles ou des films sur les mariages, là. Donc, ça c'est facile à tasser. Donc, moi, je crois vraiment que tu peux prendre la chance de dire, OK, regarde, on fait un, pour justement les, je suis d'accord, là, avec les, peut-être pas les 6, là, mais disons, en mettant 3, là.
Mm-hmm.
Canada, Australie, parce que c'est une très, très belle course. Puis allons-y avec Vegas. Ou non, parce que Vegas, ils vont vouloir garder l'exclusivité probablement. Mais tu sais, fais quelque chose pour que tu puisses juste tendre le tendre l'hameçon pour le poisson puis essayer de l'attirer vers RDS puis peut-être de gagner des abonnements puis gagner des codes d'écoute à la fin, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, moi, je trouve...
Parce que, écoute, la chaîne appartient à Bell. Mm-hmm. Ils n'ont vraiment rien à perdre de le faire.
Ouais, comme ce que ESPN fait avec, ce que Disney fait avec ESPN et ABC, les courses en sol nord-américain, c'est-à-dire, bon, cette année, Miami, Canada, Austin et Mexico vont être sur ABC. Et d'ailleurs, le Grand Prix du Canada de cette année était le Grand Prix du Canada le plus regardé de l'histoire aux États-Unis. Donc, ça se voit que ça fonctionne, avoir une course à des heures plus conventionnelles, genre en après-midi, et où il n'y a pas de NFL, ça on s'entend. je crois que pour moi, et en plus, il n'y a pas de finale de la Coupe Stanley qui va venir entraver la Formule 1 ici au Canada. Fac. Moi, je pense, pourquoi pas? Et puis, je pense que tu m'avais dit quoi? C'était 340 000 personnes qui ont regardé le Grand Prix du Canada sur RDS, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm, je pense que oui.
Ouais. Bon, on n'a pas encore. J'ai essayé de trouver les chiffres pour nouveau, mais si les chiffres sont effectivement bons, ben moi je me dis peut-être pour l'année prochaine, pourquoi ne pas faire la même chose avec, par exemple, on va dire Miami et Austin, étant donné que Vegas sera une course de nuit puis ça va être à 1h du matin. Fait que je pense pas que.
Il y a juste les grands fans qui vont être là.
Exactement. Donc. Et je me dis, pourquoi pas? Donc, évidemment, on va vous poser la question. Est-ce que vous pensez que le futur de la Formule 1 va passer par la diffusion de la saison intégrale sur streaming, autre que F1 TV Pro? Ça, c'est à suivre, parce que je crois que le deal de la MLS avec Apple TV pour les 10 prochaines années vient de changer la game complètement. Puis la Formule 1, d'après moi, va devoir faire très attention, parce que c'est pas seulement qu'aux États-Unis que ce phénomène risque d'arriver. Ça peut se passer un peu partout dans le monde.
Effectivement.
Alors,
faut vraiment faire attention.
Ah oui. Donc, la game a changé. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Évidemment, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. On a aussi notre site bulletingp.com où vous pouvez lire nos chroniques, les textes d'avant-course et même écouter nos anciens épisodes de podcast qui sont disponibles. D'ailleurs, nos podcasts sont disponibles sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des notes, des critiques pour qu'on puisse s'améliorer. Et évidemment, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace, projet avec lequel y a les frères Légaré Turcotte qui ont débuté ça et qui ont eu la chance d'inviter Jenson Button à Québec, une magnifique ville en plus. Alors, on va mettre les liens évidemment sur notre site bulletingp.com si jamais vous voulez vous rejoindre le groupe La Monoplace. Et évidemment, nous avons notre émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, espérons-le moins controversé que l'année dernière. Alors, Marc-André et moi serons présents, donc cet épisode sera disponible dimanche ou bien lundi. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, puis merci pour ton témoignage de ton utérel, ça fait du bien.
comme j'ai dit, je suis tanné, mais il faut que les choses changent. Puis ça prend des actions. Ça prend plus d'actions plutôt que de dire que le racisme, c'est mal. Alors, do better, Formula One. Do better. Donc, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve dimanche ou lundi pour l'émission d'après-course du Bulletin GP et jeudi prochain pour l'épisode numéro 114. Salut tout le monde!
Salut à tous.